Retrouve les enregistrements des causeries du Lysignol 8. Page dédiée sur www.libradio.org. Tu peux également proposer des thèmes, préparer collectivement un repas, venir picorer des mets et des idées. Bienvenue à toutes et à tous.
A toda madre. A un desmadre.
On a préparé cette rencontre avec les rencontres de Lysignol, l'équipe qui est notamment autour de la librairie Fahrenheit 451 de Pierre. Vous avez tous les livres des auteurs ici présents à disposition sur la table et à voir avec Pierre pour les paiements. On voulait que cette discussion soit une discussion ouverte entre chacun, donc pas forcément seulement parler des livres, je sais que ça va être évoqué, mais l'idée c'est vraiment de parler de mai 68 et son impact et ses choses de manière globale et ouverte. Et vos livres, on aura le plaisir à les lire après coup sur le, pour avoir leur contenu propre et ce genre de choses. Et on a généralement un enregistrement qui se fait de chaque rencontre. Si quelqu'un désire ne pas que ce soit enregistré ou que ça pose problème, n'hésitez pas à le dire. Ce n'est pas une obligation. On s'accepte si vous voulez dire des bêtises et vraiment dire n'importe quoi et pas que ce soit su par tout le monde. On accepte que ce ne soit pas enregistré ce soir. Mais c'est maintenant qu'il faut le dire. Et donc, William, qui est membre de Libre Radio, s'occupe ensuite de faire un podcast pour que les gens qui n'ont pas pu venir ce soir, et on aurait aimé qu'ils soient moins nombreux à ne pas pouvoir venir, puissent quand même avoir une sorte de trace. Et on l'envoie ensuite, nous, par email à l'ensemble des personnes inscrites pour nos rencontres. Et pour ceux qui voudraient s'inscrire et qui ne le sont pas déjà, vous avez une liste ici. Vous pouvez mettre vos adresses email. À côté, vous voyez une petite boîte où c'est marqué prix libre, c'est pour rembourser le prix du repas. Donc vous mettez ce que vous estimez juste ou ce que vous avez dans vos moyens pour ce soir. Et on prendra des tours de parole s'il faut prendre des tours de parole. On vous demande juste d'être bref, dans la mesure du possible, pour que chacun puisse s'exprimer. Et on aimerait que, si vous pouvez vous présenter un peu, qu'on sache qui est qui, par rapport notamment aux auteurs, qu'on puisse un peu vous reconnaître et pour ensuite éventuellement prolonger les conversations. Et voilà, n'ayant pas vécu mes 68, je laisserai tout de suite la parole à ceux qui ont des choses directes à dire sur les événements, et je vous transmets la parole.
Moi, je pense qu'on s'était préparé quand même pour faire une préparation, parce qu'on n'a pas tous les mêmes points d'attaque. Donc si on commence par un débat, je crains pour ma part qu'on va partir un peu dans des trucs plutôt subjectifs et tout, et qu'on n'ait pas cette cohérence-là.
Il y avait effectivement une préparation avec un ordre de passage, voilà. Donc on y va bien sûr comme ça, ouais, c'est vrai.
Pour ma part, je préfère, parce que c'est ça que je m'étais préparé, je ne refuse pas de débattre, hein. Non, surtout avec des amis, mais...
Toi, tu pourrais donner ton nom.
Ouais, Vincent, je suis membre de l'équipe des rencontres de Lysignol, auteur aussi, mais pas sur le 68.
Alors, vous voulez commencer, vous, par présenter
J'ai pas
parlé beaucoup pour pouvoir commencer.
Non, on a bien compris. Mais dans ce cas-là, est-ce que juste une chose, c'est d'essayer d'être bref, de tenir...
On s'était donné 20 minutes. C'est trop.
C'est
beaucoup.
Moi,
j'avais. Ah bon, d'accord.
10 minutes.
10 minutes, ouais.
10 minutes.
Ah non, parce que moi, j'avais pensé des lectures d'extraits de bouquins qu'on a écrits.
Qui ont?
Je sais pas, Marielle.
Mais est-ce que vous arrivez à vous tenir à 10 minutes de présentation? Alors, moi, je pense que ce serait bien comme ça. Après, ça laisse du temps. L'idée, c'est quand même qu'après, il y ait un échange. Si, voilà.
On avait aussi eu l'idée de présenter chaque personne qui avait écrit un livre, avait un livre à présenter, le présenter, puis après avoir une petite discussion, puis après une discussion générale. On avait pensé comme ça, mais...
Oui, et ceux qui sont nommés dans la présentation.
Chacun se présente.
Les quatre livres qui sont...
étaient partis. Moi, je veux bien. Oui, parce que on a des. Personnellement, j'explique un petit peu comment est né mon bouquin. Itinéraire de mai en mai, l'espace d'une vie.
Si tu peux juste donner ton nom comme ça.
Oui, alors Marco Poli. Ouais. Voilà. Lieu 68 art.
Forcément.
Forcément. Ah ouais. Plus vieux que mes anciens élèves. Eh bien, mon actuel. Alors, voilà. Donc, moi, j'ai fait ma présentation en octobre 2008, et Marielle nous avait demandé d'écrire un texte. Et 2 ans et demi plus tard, en mai 2011, j'ai écrit le texte qui va devenir ce bouquin qui a été publié depuis, qui s'appelle « L'itinéraire de mai en mai ». Pourquoi de mai en mai ? Parce que dès qu'on a parlé de mai 68, j'ai eu une image, et ce n'est pas du tout une image de mai 68, mais c'est une image de mai 62. Alors, je vais vous lire d'abord un premier extrait, si vous voulez, et puis ensuite je vous expliquerai comment le bouquin est fait, puis quel est son... Je vais essayer de ne pas dépasser 10 minutes. D'accord ?
Merci.
Alors, d'abord je vous lis le premier extrait. On devait témoigner que tout a changé, que j'avais découvert la vraie vie en 1968, mais ce n'est pas ce que ma mémoire a retenu. Alors je vais laisser affleurer les choses, ma vie personnelle, vécu politique, etc. Mais 1962, c'est l'image que j'ai. La séance se prolonge indéfiniment. Cela fait 3 heures qu'on pinaille sur un projet de tract, nous, le groupe étudiant du Parti du Travail ou le mouvement démocratique des étudiants. On traverse sans fin épaisse fumée de gauloise, voire rauque tempête dans un verre d'eau. Je ne sais même plus si le tract a été diffusé. Le train de nuit pour Paris m'attend vers 23h30. C'est bondé. Je dors tant bien que mal dans le couloir. Arrivé à vitesse réduite au petit matin, interminable défilé d'usines grises et désolantes, il ne manque que les barbelés et quelques miradors. J'écarquille les yeux face à cette réalité crue. Gare de Lyon, foule pressée, si tu tombes par terre, ils vont t'écraser la gueule. Mais la petite panique est vite surmontée. Il est 5 heures, Paris s'éveille, je n'ai pas sommeil. Du tronc me trotte dans la tête, la magie de Paris me gagne, la pluie a cessé, le soleil dissipe les flaques en légère fumerole. Je me revois sur le parvis de Notre-Dame, Prévert en poche, sur les quais, bouquinistes et badauds. J'ai la joie et l'émerveillement du provincial. Je déambule avec Dutronc, attends une heure raisonnable pour téléphoner à Heidi à Sceaux. Train de banlieue, cité universitaire d'Antony, j'obtiens une chambre d'étudiant pour 3 ou 4 jours. Comme tout s'enchaîne facilement. Un mois auparavant, Heidi avait quitté Genève, s'était engagée dans un emploi à Sceaux. Elle était fâchée, il y avait un petit peu loin. C'est mon amie. Près de Paris, où on allait se retrouver tout à l'heure, toute menue, blonde aux yeux noirs d'escarpoute, les seins haut perchés, elle était là soudain, visage tendu dans l'expectative. Elle avait mis son soutien-gorge noir, ne l'avait pas gardé longtemps dans cette petite chambre que nous n'avons guère quittée 3 ou 4 jours durant. Le fil a été renoué. 2 mois plus tard, c'est un visage tout différent de Paris que je découvre. Un étudiant rencontré à Genève m'avait offert de me loger si je venais à Paris, rue Jacob, en plein Saint-Germain-des-Prés. Nous étions juste croisés, il partait en vacances, m'avait laissé les clés de l'appartement en confiance. La tension depuis le massacre de la station Charonne est palpable. Boulevard Saint-Michel, nous n'avons pas la familiarité de l'appeler Boulmiche, des cordons de CRS, mitraillettes en bandoulière, œil farouche. Des étudiants, citadins, vibrionnants, viennent narguer ces encasernés venus d'Ardèche ou de régions pauvres. Ils forment un monôme narquois. À la broche, les poulets! À la broche, les poulets! Soudain, quelques paniers à salade débouchent en trombe. Les poulets se déchaînent, matraquent levées, on tape dans le tas, rafle au hasard quelques trublions. Violence étrange, excessive, incompréhensible pour le petit Suisse que je suis. Mais l'appel de l'amour est plus fort. Notre fête privée dans cet appartement cossu, plein de livres des éditions sociales, Maillard Père est un intellectuel communiste, se passe dans l'insouciance. Nous sommes protégés dans cette rue Jacob par notre jeunesse, comme deux bambins qui jouent dans le grenier aux merveilles. Le lendemain, nous sommes réveillés par un fracas d'avions, de chars qui défilent. La guerre ? Non. L'affolement sera de courte durée, c'est le défilé du 14 juillet. On reste au lit, il faut rattraper le temps perdu. Août à Helsinki, au Festival mondial de la jeunesse, lettre de Heidi, elle est enceinte. Je ne me représente rien de précis, mais j'assumerai, nous avons 22 ans, Il y a 2 ans, la question ne s'était même pas posée. Je me revois dans la salle d'attente sous le regard étonné de femmes enceintes, ressassant ce que j'allais dire au gynécologue qu'on m'avait indiqué, appréhendant son verdict. Nous avait aidés. Pourtant, cette fois-ci, c'est différent. On prend. Catherine naîtra le 29 mars 1963. Je viens d'avoir 23 ans, je me souviens comme si c'était hier de ma première rencontre avec ma fille de quelques heures. Dès que je l'ai prise dans mes bras, 2 pensées ont traversé mon esprit. Tu lui dois 20 ans, puisque tu l'as fait naître, mais elle ne t'appartient pas. Ce que tu lui donnes, elle le donnera à ses enfants, et ainsi de suite. C'est une chaîne ouverte sur l'avenir. Catherine sera une fille limpide, intelligente, facile à vivre. Avec sa naissance, je suis devenu adulte et studieux. Le hasard a fait la nécessité. Ce n'était pas tout à fait un hasard, j'ai appris plus tard que Heidi en question avait enlevé son PCR. Mais c'est... Elle sera suivie 2 ans plus tard de Daniel, doux rêveur d'espace interplanétaire, comme le sera à son tour Julien, son fils. Je serai un de ces néopères qui donnent le biberon à bébé, le lange, des langes qu'on relave dans une lessiveuse sur la cuisinière, le berce. À l'époque, ça étonne. Pour mes descendants, c'est banal. Parallèlement à la maîtrise de la fécondité de la femme, s'installe une présence de l'homme auprès des enfants dès le plus jeune âge. Et ça, je ne le sais pas encore. Ce n'est que plus tard qu'interviendra une réflexion sur ce que nous avons vécu spontanément. Je me permets de lire encore un autre petit extrait, puis ensuite je vous dirai comment est construit l'ouvrage. D'accord ? J'ai des thèmes récurrents dans ma vie. J'ai un thème récurrent, c'est le thème de l'aube, du matin, des choses qui commencent, et je l'ai eu à plusieurs époques de ma vie. J'ai eu un passage de la cinquantaine, etc. Et là, ce que je vous dis, c'est typiquement la première image que j'ai eue quand on m'a parlé de ça, c'était cette image de mon arrivée à Paris à 5h du matin avec Jacques Dutronc. Alors, un de ces thèmes, c'est l'aube et ses promesses, puis ensuite je vous expliquerai comment c'est, le truc est fait, je m'arrêterai là. D'accord ? Ce n'est pas un hasard si ma première image, lorsque je prépare mon intervention en octobre 2008, est ce matin parisien. Je la retrouve au passage de la cinquantaine, alors que j'ai obtenu une année de recherche. C'est le matin. Mi-juin. L'année scolaire tire à sa fin. L'air est liquide dans cette alternance de pluie et de soleil. Il regarde cette lumière, ces couleurs. Il se rend compte soudain qu'il n'a pas de mots pour désigner cette fusion d'images et d'émotions. Mais il apprendra car tout commence. Dans un tiroir, il y a une lettre officielle. Nous avons le plaisir de vous informer que votre projet de recherche a été accepté. Quand il l'a reçu en février, il l'a rangé dans son bureau, dans son état d'âme. Sans état d'âme, on verra. Maintenant, à la veille d'entamer son année d'études, sans horaire, sans élève, libre de ses déplacements, il ne se représente toujours rien. Évidemment, tout est prêt depuis longtemps. Il n'a rien laissé au hasard. Il s'est ménagé de très grandes plages de liberté. Et il savoure cette sensation de matin doux lorsqu'on est éveillé avant tout le monde et qu'il fait beau dans la lumière naissante. Juin vit ses derniers jours. Une odeur de vacances flotte partout. Pour lui, il n'y aura pas de rentrée à fin août. Un an de vie d'étudiant devant lui, de cette vie qu'il n'a jamais connue car il a dû travailler pour payer ses études. À 20 ans, il s'est payé le luxe d'une rupture avec sa famille après une dispute avec son père pour une brutée. Propos définitif, départ immédiat et grandiloquent, puis réconciliation mais dans l'indépendance. À 23 ans, à son tour, il est devenu père. C'est ainsi qu'il a quitté l'adolescence. Alors, j'ai ensuite passé à des choses qui m'ont construit. Je sors de l'adolescence, donc très tôt je suis père, et il y a une première chose qui m'a construit, c'est la paternité. Être père à 23 ans, c'est pas anodin. On avait l'impression d'être invincible. On avait l'impression, les femmes nous arrêtaient, parce que ma femme était toute blonde, toute menue. On nous donnait facilement 18 ans à l'époque. Ils nous disaient, est-ce que ça aurait élevé ce petit gamin, cette petite fille ? Je dis, comment ? Bien sûr qu'on saurait élevé, on est invincible. Et puis, ensuite, bon, il y a eu des événements plus difficiles, divorce, tout ça, je passe sur les événements. Et les choses qui m'ont construite, c'est d'une part l'enseignement. Je suis devenu très tôt, puisqu'il y avait le baby boom. Il fallait trouvé des enseignants. On m'a confié des classes à 22 ans déjà. Aujourd'hui, les gens qui sont au chômage aux 80 ans, c'était une situation complètement différente. Et on avait l'impression qu'un monde nouveau s'ouvrait. De nouveau, ce thème du matin qui s'éveille, avec par exemple ces jeunes-là, on avait l'impression que tout était devenu possible.
Donc ce n'est pas une impression, c'est une certitude.
C'est une certitude, oui, parce que vous êtes là.
Ah, bah ouais. N'importe quoi.
L'impression que tout était possible parce qu'on était tiré par la Vox Populi, on était tiré par les élèves étaient encore des élèves très structurés qui avaient envie d'apprendre. Ils contestaient, mais ça c'est rien, les élèves. On nous demandait souvent, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous faites avec ces contestataires. Les contestataires de l'époque n'avaient rien à voir avec les incivilités d'aujourd'hui.
Non.
C'était des élèves qui bousculaient le prof parce qu'ils voulaient savoir. Ouais. Ils bousculaient, lui pas, il était gentil. Et lui moins.
Non, mais c'est rien, je suis devenu.
Voilà. Mais il n'y avait pas les incivilités qu'on connaît aujourd'hui. On était dans une phase ascendante, hein, et cette image de matin qui s'éveille. La deuxième chose qui m'a construite, c'est l'enseignant, je ne vais pas vous dire exprès que j'avais prévu, mais je vous parle du deuxième thème, c'est mes origines. Je suis un Suisse d'en bas. Je pense beaucoup à mes parents, qui étaient des gens humbles. Mon père était sinois, qui à 14 ans est allé faire un apprentissage à côté d'un petit en Suisse allemande de conviseur chocolatier. Ma mère à 18 ans, pour échapper un peu à ses filles d'ouvriers de la Bali, a fait un tessinariat, une année au Tessin. Elle a rencontré Arturo. Moi, j'ai des photos, je vois mon père sur ce motocycle avec les cheveux en l'air, comme ça. Et l'amour est né. Et puis, à l'époque, la conjoncture est là. Au Tessin, il n'y a plus rien. En Suisse allemande, ben, fille d'ouvrier, elle n'a aucun avenir. Elle sacrifie à son frère qui va faire le poli. Donc, ils sont venus s'établir à Genève, où je suis né. Et l'autre chose qui m'a structuré, donc moi, je suis un Suisse d'en bas et un artisan. L'artisan, c'est quelqu'un qui met de l'intelligence dans le geste. Hein. Contrairement à ce qu'on croit, un professeur est un artisan. Ce n'est pas un type qui a une théorie, puis qui ensuite vient l'appliquer. Ça, c'est des types qui arrêtent très vite l'enseignement parce qu'ils sont chahutés, ne tiennent pas les classes. C'est quelqu'un qui met de l'intelligence dans le geste. Et moi, je vois toujours mon père, il était conviseur chocolatier. Le chocolat est une denrée très très complexe. Et puis, battez le chocolat parce qu'il faut le faire monter à une certaine température pour faire la couverture. Et puis, si vous montez trop haut ou vous, à la mauvaise température, il va avoir des traînées blanches. Et lui, il n'avait pas besoin du thermomètre parce qu'il avait appris son métier, il avait appris à regarder cet œil de l'artisan. Or, moi, je suis à la fois lié à ça parce que je n'ai jamais trahi mes origines, et je suis lié à ça parce que comme enseignant, je me considérais comme artisan. Ensuite, une autre chose qui m'a structuré, c'est mon multilinguisme. Je suis trilingue, français, allemand, italien, par atavisme familial. J'ai enseigné l'allemand, je parle l'italien, j'ai enseigné d'autres choses, le français aussi. Et puis, c'est quelque chose qui m'a structuré. Parce que je sais, parce qu'on me le dit, les gens qui me connaissent me le disent, quand je parle l'italien, quand je parle l'allemand, ou quand je parle français, je ne suis pas tout à fait la même personne. Hein. Il y a quelque chose qui change dans l'attitude. Et moi, c'est une chose qui m'a construit comme Suisse. Et puis ensuite, plus tard, j'ai, après cette année de congé où j'ai fait une enquête dans les entreprises, j'ai interrogé 110 personnes, à la SBS d'une part et puis à la Poste d'autre part, sur l'utilisation des langues nationales dans l'entreprise, il y avait des conventions à l'époque, et l'utilisation de l'anglais, et j'ai été submergé de témoignages absolument bouleversants, parce que lorsque vous parlez à des gens de leur vie, parce que c'est tous les gens que j'ai interviewés qui avaient changé de région linguistique à l'intérieur de l'entreprise, donc c'était ça le but de la recherche. Et ils vous racontent des histoires de leur enfance, et tous ont quelque part un instituteur, la plupart du temps, ou un maître, qui leur a donné un coup de pouce. Et j'ai eu ce vécu-là, et quand je suis revenu, je me suis dit, tiens, j'ai envie de m'ouvrir à autre chose. Et par hasard, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai commencé à faire du théâtre, et je viens de terminer ma 75e pièce de théâtre tout à l'heure, il y a un mois, pas tout à fait un mois. Et l'autre dimension, c'est le théâtre. Je suis devenu, quand je suis rentré en retraite, mais déjà avant, je suis devenu comédien. Je suis comédien et metteur en scène actuellement. Et puis je continue à enseigner. C'est l'autre chose qui m'a structuré. Le théâtre est quelque chose qui m'a structuré. Et puis sur le vécu politique, je n'ai pas tellement envie de m'approfondir là-dessus. Et puis comme comédien, tout à coup, on tombe sur un texte. Je tombe sur un texte, la maison d'os du billard. Et puis je tombe, il y a un maître qui est dans une maison qui est faite en os. On ne sait pas très bien, on est dans l'irréel un peu. Puis il est tout seul, il commande une valet de taille de gens qui ne sait pas très bien ce qu'ils font. Puis la maison est en train de se déglinguer. Et puis tout à coup, il a un monologue, puis il dit « Grandir se fait dans l'œil de quelqu'un qui vous regarde. » Et on ne me regardait pas. À quel moment j'ai été regardé ? L'été, oui. Et par qui ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? Pas longtemps. Je suis sûr de cela, du moins. Pas longtemps. Et je le sais. Parce que j'aurais voulu, non pas peut-être que ça dure, j'aurais voulu, je veux encore y revenir. C'est quoi cette histoire du regard? Le regard, c'est comment on vous a regardé comme enfant. Moi, je suis un de ces enfants pas regardés. Pas parce que mes parents étaient malveillants, mais parce que mon père était au service militaire pendant 3 ans. Que ma mère... Mais ça, je me suis rendu compte beaucoup plus tard. Je me suis rendu compte qu'elle nous a jamais emmerdé avec ça. Hein. Elle nous a jamais dit que c'était horrible, etc. Mais ma mère était seule, à se bagarrer avec les coupons pour maintenir notre petite chocolaterie, et puis élever les 2 gamins. Puis mon père, ben, il était au Val Bédret, à l'autre bout de la Suisse. Et c'est quelque chose que j'ai en moi. Je n'ai pas été regardé. Donc je dois régulièrement... quelque chose que j'ai découvert par l'écriture, je dois régulièrement construire, je dois régulièrement me construire. Puis l'autre, et puis je m'arrêterai là-dessus, un intermezzo vespéral, pour bain des paquets. La soirée est belle. Je mange seul dans ma bulle. Une jeune femme vient s'asseoir à ma table, jolie, 35 ans environ. Au bout d'un moment, elle me demande si je parle anglais. C'est une journaliste de la BBC, Georgia. Elle termine ce jour-là un reportage en Suisse, passe sa dernière soirée à Genève. Le courant passe, mon anglais que je pratique peu devient fluide. Nous avons été militants dans des mondes différents. Nous nous sommes éloignés d'une certaine manière de l'être sans renier notre besoin de justice. We lacked compassion. Nous manquions de compassion. En français, le mot m'aurait effarouché. Pourtant, selon l'étymologie grecque, ça donne sympathie, participation à la joie ou à la douleur d'autrui. C'est ce qui nous a manqué. Fortuitement, un mot est venu par le détour d'une langue étrangère à un moment inattendu éclairer quelque chose qui était tapis en moi depuis longtemps. Nous n'étions pas affectés par le sort des masses laborieuses, abstraction au nom de laquelle nous prétendions nous légitimer. Et c'est l'expérience que je n'ai pas trouvée très heureuse, que j'ai faite du gauchisme, j'ai toujours resté quelqu'un ancré à gauche, quelqu'un politiquement actif, si on veut, mais l'expérience du gauchisme, nous n'aimions pas les trotskistes, qui n'aimaient pas les Mao, qui n'aimaient pas les Spontex, etc., c'était une expérience finalement assez négative, si on veut, c'est-à-dire que nous n'avions pas cette compassion, c'est-à-dire nous n'avions pas, comme nous avions 3 fils de communistes, Éric Descarreaux, Michel Ducommun et Daniel Marcot, qui eux étaient implantés, parce qu'il est fils d'ouvrier, par exemple Éric Descarreaux, il avait un vécu personnel du prolétariat ou de la classe ouvrière. La plupart des autres ne l'avaient pas. Voilà. Et c'est cette image que j'ai eue qui m'est venue tout à coup au détour d'une langue étrangère, que ce qui nous manquait c'était cette compassion, cette sympathie avec les gens que nous prétendions défendre. Voilà, je m'arrête là. Il y a beaucoup d'autres choses dans mon bouquin.
Avec presque le même. Merci.
Merci d'avoir été succinct.
20 minutes, hein?
C'était
non.
Trop long.
Non, non, c'est, j'ai
non,
fait
sympathie. Non,
j'ai
trouvé. 10, enfin, pour
bah ouais,
pas,
mais c'est, mais
peut-être
c'est un succinct, c'était bien. Merci. Non, non, c'est...
Qui était le suivant dans votre arrangement?
Je veux bien passer maintenant parce que C'est un recueil de témoignages, hein, mai 68 et après, dans lequel il y a le témoignage de Marco Poli, justement.
Un extrait, hein, c'est pas...
Oui, 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 oui. Alors, 1968, quand bien même cette allée-là, je n'étais pas encore bien consciente politiquement, je dis, c'est ce mouvement, hein, quand on dit 68, c'est des années, c'est un mouvement qui a duré... une quinzaine d'années. Alors, ça m'a vraiment construite, ça a changé le cours de ma vie, ça lui a donné un sens. Et durant toute ma vie de militante féministe, syndicaliste, pacifiste, j'ai tout le temps rencontré des gens qui avaient été aussi construits par 68. Hein, comme je reprends l'expression de Marco, je trouve construit, c'est une très bonne expression. Mais voilà, tu dis, il y avait des chapelles et je ne comprenais pas, moi, je suis militante donc à Genève depuis 1974, pourquoi je sentais qu'il y avait des tensions, des inimitiés et surtout beaucoup de silence dans ces années qui étaient donc la fin de l'élan 68-art. Bon, et je comprenais que c'était des sujets tabous. Mais en 2008, là, il a commencé à avoir des petites commémorations. On n'aimait pas le mot, mais enfin, on s'est mis un peu à parler. Et moi, j'avais très envie de comprendre ce qu'avaient vécu mes camarades. J'avais été absente pendant 5 ans, j'avais été en Suisse alémanique, j'avais vécu beaucoup de choses très fortes, mais ce qui s'était passé de 1968 à 1974, à Genève, je ne savais pas. Alors, amitié, 6 amis ont accepté de parler en juin 2008. Et ça avait été... Alors la question c'était, qu'ai-je fait en mai 68, hein, comme symbole, mai 68, et qu'en ai-je fait dans ma vie? Et qu'en fais-je encore maintenant, hein, parce que tous ces gens que j'ai fait parler, c'était des militants. Alors cette première soirée avec 6 militants, c'était donc très long, mais c'était formidable. Et alors j'ai continué à réunir des gens dans des bistropsy, dans le sens qu'ils parlaient d'eux-mêmes, psy, ça voulait dire qu'ils parlaient d'eux-mêmes, dans le silence, comme on fait maintenant, c'est vrai, de ce qu'ils avaient fait en 68. Alors, il y a eu une cinquantaine de personnes, donc Marco, Pascal, Huguette, et Jean, et Ivar. Il se trouve que là, il y a plus d'hommes que de femmes, mais j'ai toujours veillé à la parité, qu'il y ait toujours un nombre égal. Et d'ailleurs, nous y sommes arrivés. On doit un peu plus insister auprès des femmes. Alors voilà, ça fait 10 ans de bistropsie et ils ont été publiés, 19 récits finalement ont été publiés fin avril, là, pour mai 68, c'est donc pour mai 2018.
C'était juste avant le Salon du Livre.
C'était voilà. Pour le Salon du Livre voilà. Que j'ai réussi
pour le 50e.
Voilà, pour le 50e.
Je tenais à ce qu'il soit là au Salon du Livre.
Alors, Huguette est l'éditrice de donc, l'édition des Sables. Lisez ce livre. Alors voilà, vous trouverez une vingtaine de récits. Alors, puisque Marco et Jean et Pascal vont aussi parler de leur livre, je pensais que, en tout cas, Ivar pouvait dire quelques mots de sa vie, de son 68.
Oui, enfin, je suis un de ceux qui a témoigné là, dans le premier tome. Il y en aura un second.
Oui, il y en aura un deuxième.
Moi, quand il y a eu le mouvement de 68, j'habitais à Lausanne. Et donc, moi, je suis tapissier décorateur, mais j'étais 3 mois, j'étais secrétaire remplaçant de l'IRG, l'International des résistants à la guerre. Et c'est tombé en plein avril, mai, juin 68, ce qui était une période extraordinaire. Et là, j'hébergeais un déserteur breton, poète, d'ailleurs qui est, paraît-il, assez connu maintenant en Bretagne. Et dans les militaires, sans savoir qu'il y aurait mai 68, évidemment, organisé des journées militaires à Genève. Et nous, on se préparait, on pensait qu'on serait peut-être 5 ou 6 à distribuer des tracts à des recrues, futurs recrues, etc. Et il s'est trouvé que tout le mouvement de mai 68, d'ailleurs c'était la première fois où j'ai accédé, j'étais à l'université, dans le hall, tous les grands débats et tout. Et puis deux ou trois jours après, on a réussi à bloquer le Victoria Hall. Et en ce moment-là, on avait diffusé deux tracts, le tract officiel de l'IRG et puis un tract anarchiste qui se terminait par recrues, futurs recrues, désertés, ce qui symbolise votre fin, la fin de l'humanité. Évidemment, c'était notre ami poète qui avait terminé le tract, parce que moi-même, comme secrétaire de l'IRG, j'ai dû aller à un procès d'objecteur à Neuchâtel, parce qu'on se venait partout, on allait avec des procès, avec des grandes croix derrière et tout. Enfin, on avait pas mal de choses dans cette période. Et le ministère public de la Confédération, en fait, a pris ce texte comme prétexte pour nous attaquer, mais c'était en fait pour attaquer surtout l'IRG, pour atteinte à la sécurité militaire, à incitation à la désertion. Et le procès a eu lieu une année après, en 69, et j'ai gagné le procès. Et en plus, c'était tombé en plein quand il y a eu la sortie du petit livre Défense civile. Et du coup, on a créé des comités à Lausanne qu'à Genève et tout. Donc là, c'était, disons, un lien direct avec la période de 68. Je ne vais peut-être pas trop m'allonger sur tous les événements par la suite, que vous pouvez lire d'ailleurs dans le livre. Mais si un moment après, je veux bien prolonger, mais vu qu'il y a peu de temps pour les auteurs, là, je vais laisser la parole.
Juste rajouter que vraiment, Ivar était un personnage absolument décisif durant toutes ces années. Quand j'ai dit je vais continuer des bistrots, tout le monde me disait, mais il faut faire parler Ivar. Enfin, vous verrez, il a un nombre d'engagements absolument ahurissant. Il a lutté de tous les combats 68 ans.
Ouais,
des
teasers,
ils sont
en 68,
je
peux dire quelques mots. Alors, effectivement, les 68 ont aussi changé ma vie, mais j'ai pas compris tout de suite. En 68, j'étais à l'université, en lettres, et il y avait beaucoup, en fait, tout était parti par une révision de l'attribution des bourses d'études. Et il y avait de plus en plus d'étudiants qui faisaient partie, je ne sais plus comment ça s'appelait, bref, un groupement d'étudiants syndiqués, qui nous distribuaient des tracts au sujet de ces bourses d'études qui en fait défavorisaient plutôt qu'elles n'aidaient. Et c'est comme ça que ça a commencé à Genève. Et puis les cours se sont arrêtés, on discutait. Je me souviens qu'on avait une fois invité Chavagne qui était venu. Dans un amphithéâtre absolument bondé. Je me suis rendu compte à quel point c'était une bête politique parce qu'il pigeait exactement quelqu'un, donnait la parole, il reprenait. C'était très intéressant. Je me souviens que Charles Magnin, qui était un étudiant en histoire, parce qu'on continuait les discussions dans des arrière-salles de bistrot en fumée, et Charles Magnin était notre Cohn-Bendit, comme je dis aussi dans le livre. Alors, lui, non seulement moi, je ne comprenais rien, parce qu'il a mis un certain temps à comprendre ce qui s'était passé, mais lui, il était visionnaire, il voyait où on allait, comme Cohn-Bendit, exactement la même chose. Ils étaient capables de synthétiser, de voir plus loin. Et c'était fabuleux, ce Charles Magnin. Moi, j'étais comme ça devant lui. Et puis ensuite, à la rentrée 68, j'ai eu une suppléance au cycle de la Golène, j'habitais Mérin. Et à l'époque, je me souviens, j'ai pratiqué un enseignement, mais totalement traditionnel, celui que j'avais reçu, bien sûr. Et puis j'utilisais le bled, mais j'ai honte rien que de le dire pour les dictées. Et il m'a fallu bien 2 ans pour assimiler. Alors là, j'ai compris, définitivement compris.
et pour changer mon enseignement du tout au tout et mettre les pupitres en U. Et puis c'est marrant parce qu'on avait toujours des collègues qui voulaient surtout pas en entendre parler. Alors au début de chaque leçon, ça prenait 2-3 minutes. Alors ceux qui entraient dans une salle en U où ils ne la voulaient pas, ils les remettaient comme ça. Puis après celui qui venait derrière, remettait les salles en U. Enfin, c'était assez drôle. Et ça a été vraiment le début de ma politisation. Et j'ai vraiment assimilé tout cet espoir qu'avait apporté mes 68, tout ce qu'on pouvait faire, tous les possibles. J'en ai réalisé quelques-uns. Et alors, ça a changé ma vision du monde, de ma propre vie et de l'enseignement. Mon enseignement après mai 68 n'avait strictement plus rien à voir avec celui que j'ai pratiqué au début, faute de mieux, et que j'avais reçu moi. Et je pense, j'ai enseigné 33 ans, je pense qu'en ces 33 ans, j'ai vraiment mis en application tout ce que j'avais compris. Et j'ai beaucoup aimé enseigner, notamment la dissertation où je disais à mes élèves, mais je vous apprends à penser, je vous apprends à vous exprimer, c'est les deux choses les plus importantes de la vie. Et j'avais mis tout un système au point. Et je dois dire que si je me retourne, je me dis que ça a été magnifique ce mai 68 à l'aube de mon enseignement et de ma vie.
Ici John Connor, si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance.
Libradio, www.libradio.org.